CFM Lacaune, le mag.
Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Pistre, Robert Pistre. On se retrouve à Perrac, une de vos œuvres aussi, il faut le dire. Et on est devant la nouveauté de cette année qui sera inaugurée le 13 août, je vous l'annonce. Alors bonjour Monsieur Pistre.
Bonjour, d'abord je voudrais rectifier votre œuvre parce que c'est une œuvre collective, mais je ne dis pas ça par coquetterie. C'est que je suis très, très impressionné par le nombre de bénévoles qui contribuent à l'aménagement de ce lieu et surtout à le faire vivre. Parce qu'une collectivité, c'est faire un investissement, puis après faire vivre cet investissement, c'est une autre paire de manches. Et là, je pense que sur Peyrac, entre tout, on doit mobiliser pas loin d'une centaine de bénévoles. Et je crois que c'est ça qui est aujourd'hui notre fierté collective.
Oui, c'est vraiment un lieu qui vit et qui vit vraiment une large partie de l'année. Et un lieu qui fait aussi écho en fait à tout ce qui est notre passé. Et donc la nouveauté cette année, c'est de parler de Paulin, de nos rois et de la brebis de Lacaune qui est quand même aussi, côté agroalimentaire, une fierté locale.
Oui, on peut considérer que l'économie locale a deux éléments essentiels. D'une part, la charcuterie, on a dit un mot tout à l'heure, mais aussi le brebis pour la production de lait pour Roquefort. Et là, quel est le rôle qu'a joué Paulin de Leroy? C'est au milieu du 19e siècle, il s'agissait de passer d'une race de brebis viande à une race de brebis qui était davantage productrice de lait. Et c'était tout le mérite de Paulin de Leroy d'être allé à une fois exposition universelle de 1855 où il a acheté des brebis, enfin, un bélier, puis l'année suivante des brebis sans zone, et ils ont ramené à Calmel. C'est cela qui fixe le début de la race Lacaune. Les gens pensent que la race Lacaune est quelque chose qui existait de tout temps. Non, c'est quelque chose qui a été créé à l'époque où on a pu développer le Roquefort par suite du développement des moyens de transport, chemin de fer et route. Et donc, c'est le mérite de ce Paulin de Leroy d'avoir fait cela. D'autres personnes sur l'ère Roquefort ont essayé de faire la même chose, mais c'est lui qui a le plus réussi, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la race Lacaune fait partie de la AOC Roquefort.
Alors juste pour resituer, Paulin de Noroy, vous avez pu retrouver, je crois, toutes ses recherches parce qu'il avait un carnet que vous avez pu feuilleter, découvrir. Et puis, vous avez d'ailleurs écrit un cahier ou un livre qui est édité, bien sûr, à Rieux-Montagny, au CERPER.
Oui, vous avez raison de parler de cet ouvrage parce que c'est ce qui nous a permis de dater exactement ce qui a été fait. Monsieur Paulin de Noroy est arrivé à Calmels en septembre 1847 et il a fait tenir par son régisseur tous les mouvements d'argent, tous les jours, aujourd'hui acheté telle chose, vendu telle chose, etc. Et c'est comme ça qu'on a su que, dans la foulée de l'exposition universelle de 1855, donc l'année d'après, il a acheté à Alfort, là où il y a l'école vétérinaire, ce bélier Southdown que les Anglais avaient amené. En effet, Napoléon III avait voulu moderniser la France. Et l'objectif de cette foire, cette exposition universelle, c'est de demander à chaque pays de montrer ce qu'il faisait de mieux de chez lui pour qu'en France, on puisse les copier. Bon, alors, à titre anecdotique, j'ai découvert qu'il y a un Hongrois qui a été primé pour la façon de drainer les marécages. Et ce comte hongrois était le comte Andrassy, que les gens qui ont vu les films de Sissi impératrice ont pu voir que c'était celui qui draguait l'impératrice à Budapest. Et là, donc, a été venu à la Foire Exposition de 1855 pour expliquer donc ce que faisaient les Hongrois en matière d'assainissement de marécages.
D'accord, donc voilà, ça c'était la petite anecdote en plus. Alors on revient à cette race Lacaune, elle a été donc créée à Lacaune, mais comment elle s'est développée sur le territoire? Comment est arrivée aussi l'AOC, enfin Roquefort, enfin, comment tout ça s'est mis en place? Parce qu'en fait on ne l'imagine pas, on pense que ça existait comme ça, mais c'est pas le cas.
Alors si vous voulez, ce que l'on sait, c'est grâce au livre de compte de M. Paulin de Noroy, que je sais, quand est-ce que ça a été commencé ? Parce qu'il y a tel jour, à telle date, il a payé tel ce bélier à, et il a payé très cher parce qu'il achetait des fois des béliers locaux et c'était 20 ou 30 fois le prix de bélier local. Donc c'était vraiment c'était un investissement et une foi en l'avenir. Et ce Paulin de Leroy, il n'a pas fait que investir sur les brebis. Il a pris tous les sujets possibles et imaginables. Il avait le souci de moderniser l'exploitation. Et par exemple, il a créé un four à chaud. C'était l'époque où on créait les fours à chaud. Et ce four à chaud, on en voit aujourd'hui la trace que de la carrière qui permet on a extrait la pierre pour alimenter le four à chaud. Et cette carrière existe toujours. Quand on monte à Calmels, aujourd'hui, il y a une statue de la Sainte Vierge dans cette carrière, vous voyez.
Mais merci pour la petite information, monsieur Pista.
Je veux dire qu'il avait, le chelage des terrains est quelque chose d'assez récent. Il a fallu que... Alors, les mines les plus proches étaient à Castanet-le-Haut, là, oui. Près du Perras. Et il fallait qu'il y ait la route et que les mines aient été ouvertes. Donc, j'ai su, à travers d'autres recherches qui ont été faites, que les mines ont été ouvertes en 1836 et que la route a été ouverte, la route de Saint-Gervais a été ouverte en 1840. Et donc, à partir de ce moment-là, les charrettes pouvaient aller chercher le charbon là-bas et alimenter les fours à chaud. Et donc, c'est une époque où on a beaucoup développé les fours à chaud et on a trop fait, je pense. Enfin, quand il y a une mode, très souvent, on en fait un peu trop. Mais voilà, donc il a développé ça. Il a été aussi à Paris acheter la première batteuse à manège de la région. Enfin, cet homme avait une volonté de... Alors, aujourd'hui, les gens parle de Ludovic de Leroy. Ludovic de Leroy était son fils, qui a surtout été à la Cône, le créateur des thermes de la Cône. Il a fait un investissement, cet investissement dans le thermalisme à la Cône, c'est pas évident de faire un thermalisme à la Cône, et donc il a plutôt dilapidé sa fortune dans les thermes. Mais Paulin, lui, il est resté c'est un agriculteur. Enfin, l'agriculteur. Il se comportait presque comme un ingénieur de l'INRA, et toujours à l'affût de toutes les nouveautés qui pouvaient se produire dans le domaine agricole.
CFM Lacaune, le MAG.
Merci d'être à l'écoute de CFM Lacaune. Vous écoutez la seconde partie du MAG. MAG aujourd'hui qui concerne la brebis de Lacaune, cette race de brebis qui fait bien sûr le lait pour confectionner le roquefort. La brebis Lacaune a été réalisée grâce à Paulin de Leroy qui a fait un mélange de races. Et nous en parlons puisque je suis avec Robert Pistre à la maison de Peyrac devant une statue, deux statues d'ailleurs qui ont été érigées ici pour parler de cette histoire. On en a parlé en première partie d'émission. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la sculpture qui sera inaugurée le 13 août prochain, une sculpture de Jacques Bourges.
Non, mais Jacques Bourges est un sculpteur de la Crouzette. Il a laissé beaucoup de souvenirs, de témoignages de son art à la Crouzette. Il y a la statue du tailleur de pierre à la Crouzette, et puis surtout à l'église. L'église de la Crouzette est un véritable showroom de l'art du granitier. Et cet homme mérite beaucoup, peut-être plus de considération, parce que ce qu'il a fait est quand même particulièrement remarquable. La façon dont il a fait le portrait de Paulin de Leroy est quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors, si vous me permettez, je vais un petit peu décrire. En fait, il y a le portrait de Paulin de Leroy qui est fait comme avec des pixels pour les plus jeunes. C'est vraiment, mais c'est fait. Alors, je voulais demander, est-ce que c'est fait par ordinateur ? Vous êtes un peu foutu de moi. Vous m'avez dit non, c'est bien fait à la main.
Oui, non, c'est fait à la main. Et ça. Alors, ce qui caractérise Jacques Bourges, c'est que donc il doit avoir maintenant, je vois, c'est un sexagénaire. Quand il a commencé à travailler, on ne travaillait qu'à la main, quoi. Et donc, il connaît toutes les techniques depuis le travail à la main jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est un puits de science. Et en particulier, donc, il s'est penché sur la création des obélisques en Égypte. Il y a un endroit où il y a un obélisque à moitié fait. Donc c'était un chantier de création d'obélisque. Et là, il s'est posé la question comment il pouvait faire ça, les outils de l'époque. Et en particulier, il a montré que certaines hypothèses des archéologues étaient fausses, parce que tout simplement, les archéologues, ils n'ont jamais tenu un burin dans leurs mains. Et il y a des hypothèses qui ne sont pas... qui ne sont pas valables. Et donc son ouvrage est extrêmement intéressant. Il dit voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible avec les techniques de l'époque pour travailler le granit. Parce que les Égyptiens ont travaillé le granit, alors que les Romains, les Grecs et les Romains ultérieurement ont travaillé le marbre, qui est une pierre plus facile à travailler que le granit.
D'accord, et alors... Donc il y a deux techniques hein, qui sont donc la gravure, on va dire, avec le portrait de Pauline de Noroy, et puis après il y a la sculpture à proprement dite avec la tête de la brebis race Lacone, vraiment une tête particulière.
Oui, c'est ça, oui, et là il a bien représenté cette tête de brebis, et les gens disent c'est tout à fait ça, c'est tout à fait remarquable la façon qu'il a de bien traduire les choses et restituer les formes et tout. Vraiment, je suis très satisfait du travail qui a été fait. Et voilà. Disons qu'en faisant cela, nous avons voulu marquer ce territoire. Et notre objectif n'est pas de rendre hommage à M. Pauline de Leroy. C'est ici, disons, tout ce qui se fait, c'est un peu l'œuvre de chacun. Chacun y a contribué. Et c'est un peu l'hommage à nos anciens. Ce qui m'intéresse, moi, dans ce qu'ont fait nos anciens, c'est de montrer leur bias, leur intelligence des choses. Si vous voulez. C'est en ce sens, mon objectif n'est pas de revenir à la vie d'autrefois. Quand j'étais jeune, je liais des gerbes à la main, avec plein de caoutchoucs et de ronces dans les gerbes. Et je ne souhaite à personne de revenir à cette époque-là. Donc là-dessus, je ne suis pas passéiste, pas pour dessous. Mais en revanche, je suis admiratif des savoir-faire et de l'intelligence de nos devanciers.
Et puis il y a aussi l'intelligence de connaître le milieu, l'environnement dans lequel on vit. C'est vraiment ça aussi, un petit peu le savoir des anciens.
Oui, si vous voulez, c'est l'habitude. Je dis qu'ici, on avait... une triple caractéristique. Premièrement, l'altitude, il faisait très froid l'hiver. Deuxièmement, dans un terrain qui n'est pas très fertile, c'est du granit, qui ne vaut rien pour la culture. Et troisièmement, l'isolement, on n'avait aucune route et tout ça. Et donc les gens d'ici, devant une triple caractéristique, il fallait travailler dur, il fallait avoir du yais et il fallait être solidaire. Si vous voulez. Et donc c'est un peu cette solidarité qui reste, et cette solidarité qui fait qu'il y a autant de bénévoles qui sont heureux de participer à ce travail. Puis après aussi, ce que je ressens, c'est qu'ils sont contents de se retrouver entre eux. Vous voyez ?
Oui, mais ça reste dans la solidarité ou dans la convivialité de notre territoire.
Convivialité du territoire. Et c'est ce qui marque les gens extérieurs, si vous voulez. Peut-être on fait des choses ici qu'on ne ferait pas dans des parties plus riches de notre territoire. Par exemple, dans le Lauragais, là-bas, où... tout pousse tout seul, donc il n'y a pas des gens qui sont là à essayer de voir comment leurs ancêtres pouvaient vivre. L'autre jour, nous étions à Cambon, oui. Et Cambon, pour moi, c'est la quintessence de cette montagne, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui est le plus haut, c'est l'endroit qui est le moins fertile, et c'est l'endroit qui est le plus isolé à tout point de vue. Mais vous avez vu que là-dedans, dans ce lieu, il y a des personnes très motivées. Ça, on a parlé de Zézé et de Maria Cazares, mais pour moi, c'est ça qui fait le charme de ce territoire. Si vous voulez.
Bah écoutez, M. Pistron, on va finir sur ces mots. Merci de m'avoir accompagné, amené à Peyrac une nouvelle fois. Et je vous invite vraiment à venir à la maison de Peyrac. C'est la bonne période. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Merci beaucoup.